Bon, ce qui peut me venir à l'esprit en premier, c'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel, qui est Sirius. On ne la voit pas tout le temps sous nos latitudes, toute l'année. Elle est dans la constellation du Grand Chien, un petit peu en dessous de la belle constellation d'Orion. Elle m'intéresse particulièrement pour plusieurs raisons, mais en particulier pour des raisons historiques, parce que Sirius, on sait que ça a joué un rôle extrêmement important dans l'Antiquité égyptienne, puisque l'époque où on voyait pour la première fois apparaître Sirius au-dessus de l'horizon, puisque Sirius, même en latitude égyptienne, n'est pas observable tout le temps, toute l'année, et l'époque où on voyait apparaître pour la première fois Sirius, ça correspondait au début du cru du Nil. Et donc, en fait, tous les travaux agricoles de la haute antiquité égyptienne dépendaient d'une étoile, et Sirius était en quelque sorte divinisé grâce à ça. Et on retrouve également Sirius jouant un rôle fondamental dans la cosmogonie des Dogons, un peuple du Mali aussi, qui a une cosmogonie fascinante. Donc voilà, Sirius me vient à l'esprit. Alors, je peux citer aussi, un petit peu de façon anecdotique, un autre astre qui n'est pas une étoile. C'est un astéroïde. Vous savez, les astéroïdes, ce sont ces petits cailloux rocheux, enfin petits ou gros d'ailleurs, qui gravitent entre Mars et Jupiter, probablement résidus d'une planète qui n'a pas pu se former au début de la formation du système solaire. Et donc, ces innombrables astéroïdes qui tournent autour du Soleil, entre les orbites de Mars et Jupiter. J'en cite un, c'est le numéro 5523. Pourquoi? Parce qu'il porte mon nom. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas moi qui l'ai découvert, puisque je ne fais pas l'observation astronomique, hein, mais voilà. J'ai eu la chance que le découvreur de ces astéroïdes, qui l'ont découvert en 1991, le grand télescope du Mont Palomar, voilà, pour rendre un petit peu hommage à mes travaux, voilà, ont baptisé cet astéroïde de mon nom. Alors, voilà, de temps en temps, je vais sur un site de la NASA où on peut suivre un petit peu la trajectoire de mon astéroïde, bon, qui ne m'appartient pas, mais c'est un petit peu un titre honorifique. Ça me rapproche un petit peu de l'astéroïde de Petit Prince de Saint-Exupéry.
Si vous aviez la possibilité de faire un voyage dans l'univers, vous iriez où?
Bon, alors, a priori, évidemment, on pourrait penser que j'irais m'approcher d'un trou noir et plonger dedans. Bon, en réalité, effectivement, ce serait plutôt dangereux de faire ça, puisque, en tout cas, les connaissances que l'on croit avoir actuellement sur la vie des trous noirs nous disent qu'on aurait toutes les chances de ne pas vraiment pouvoir sortir du trou noir sain et sauf. En fait, je vais vous dire, le voyage vraiment rêvé, pour moi, ce serait un voyage dans le futur. C'est-à-dire pour voir un petit peu ce que sont devenues nos connaissances d'aujourd'hui. Pas forcément un voyage des millions d'années dans le futur, parce que probablement dans des millions d'années, l'humanité n'existera plus ou aura tellement changé qu'on ne reconnaît rien. Simplement un voyage peut-être d'un siècle ou deux. Que sont devenues nos connaissances aujourd'hui? Et puis aussi, de façon plus terre-à-terre, d'ailleurs c'est le cas de le dire, qu'est devenue notre planète. Alors là, on sort de mon domaine de l'astronomie, mais évidemment, on ne peut qu'être interpellé également par les problèmes que connaît notre planète et la dégradation de la planète. Qu'est-ce que ce sera devenu tout ça? Et pour les générations qui nous suivront, et mes enfants, mes petits-enfants, et mes générations qui viennent de moi, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Ça, j'aimerais bien, effectivement, faire un voyage dans le futur. Et pour faire un voyage dans le futur, la théorie de la relativité générale, sur le papier, le permet. Il suffirait de voyager à une vitesse très très grande, s'approchant de la vitesse de la lumière. Donc je prendrais une fusée, si on avait les moyens techniques, puisqu'on est en train un petit peu de rêver, mais ce n'est pas du rêve absurde, hein, absolument. C'est simplement une réalisation technologique possible, que l'on ne sait pas encore faire, mais qui sera un jour peut-être accessible. On prend une fusée, on part dans l'espace, on va voyager à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, et on revient sur la planète. On s'aperçoit que nous, on a vécu dans notre temps de voyage quelques mois, quelques années éventuellement, ça dépend évidemment de la longueur du voyage, et on s'est aperçu que quand on revient sur Terre, on a voyagé dans le futur, parce que sur Terre, ça sera écoulé plusieurs décennies ou plusieurs siècles. Donc voilà une façon de voyager dans le futur qui me fait rêver.
Pour l'instant, le voyage, c'est celui que l'on peut faire avec vous ce soir, lors de la conférence. C'est un voyage aussi pour vous, le fait de partager vos connaissances, votre vision de l'univers avec le public.
Oui, c'est un voyage. C'est un voyage déjà vers le public, lui-même, bien entendu. Mais je dois dire aussi que cette histoire de voyage dans l'espace, le temps, etc., à la fois fait par la recherche à l'astrophysique et puis fait à travers ces différentes collaborations artistiques, dont j'ai cité simplement quelques exemples, mais il y en a eu beaucoup d'autres, il faut quand même comprendre que c'est essentiellement un voyage intérieur. Et le poète dit que le vrai voyage, je crois que c'est Novalis qui écrivait ça, que le vrai voyage, en fait, c'est le voyage à l'intérieur de soi-même. Et en sondant les espaces quasi infinis qui sont en nous, on a peut-être aussi une sorte de correspondance, une métaphore du voyage dans le cosmos en dehors de nous. Bachelard, là, le célèbre philosophe et épistémologue français du début du XXe siècle, disait très justement, il parlait très justement de la double profondeur du cosmos et de l'âme humaine. Et c'est une phrase qui m'a toujours beaucoup frappé, que j'ai mise en exergue de certains de mes textes. C'est l'une des raisons également pour lesquelles on n'en a pas parlé, mais j'ai publié beaucoup de poésie. Et pour moi, la poésie, c'est le langage qui permet d'explorer le cosmos intérieur, c'est-à-dire le monde pur des émotions, des sentiments, sur lequel je pense que pour l'instant, et pour longtemps encore, j'espère, la science n'a rien à dire.